Bonjour à tous. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Projet de l'homme, projet de Dieu ». Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 9. Livre de la Genèse, chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Multipliez-vous et remplissez la terre. Donc nous avons là la feuille de route que les fils de Noé et leurs épouses reçoivent de Dieu à la sortie de l'arche, après le jugement de Dieu sur l'humanité corrompue, qui s'était concrétisé par ce cataclysme qu'est le déluge. Et ça rappelle la même mission reçue par Adam et Ève avant la chute. Regardez Genèse chapitre 1, au verset 28. Genèse 1, verset 28. Dieu vient de créer l'homme et la femme. Il est dit, Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et ce mandat de Dieu est accompagné aussi de dons de la part de Dieu. Dans les deux passages que nous avons lus, dans celui-là, on est donc en Genèse 1, 28, si on lit juste après, Dieu dit, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Si on retourne en Genèse 9, on a une formulation un petit peu différente, mais qui revient un peu à ça. Au verset 2, Genèse 9, verset 2, vous inspirerez de la crainte et de la terreur à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et à tous les poissons de la mer, ils vous ont été livrés. Et dans les deux cas, on peut remarquer aussi que Dieu précise la nourriture qui est allouée à sa créature, à l'homme. En Genèse 1, au verset 29, on avait « Dieu leur dit, je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. » Et quand on regarde dans Genèse 9, au verset 3, Dieu dit, « Tout ce qui fourmille et qui vit vous servira de nourriture. Comme les végétaux, je vous donne tout cela. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. » Donc, en plus de ce qui s'était passé en Genèse 1, les hommes ont le droit de manger de la viande. Donc, j'en reviens à ce mandat de fécondité, de prise de possession de toute la terre, de domination sur les animaux et la nourriture qui leur est donnée. Tout ça est précisé à Adam et Ève juste après leur création, mais aussi après la destruction du déluge et après la recréation que représente ce qui se passe après le déluge, cette vie qui recommence sur la terre. Ce même mandat est renouvelé, on vient de le voir, à Noé et à ses enfants, les seules 8 personnes rescapées du déluge par la grâce de Dieu. Et je vous propose de lire un peu plus loin au chapitre 11. Genèse, chapitre 11. Verset 1, toute la terre parlait la même langue avec les mêmes mots. Alors, toute la terre, qu'est-ce que c'est que toute la terre? Bien, on le voit au chapitre précédent, au chapitre 10, qui nous dit, voici la généalogie des fils de Noé, Sem, Cham, Japhet. des fils naquirent d'eux après le déluge. Donc toute la terre, c'était les descendants des fils de Noé. Et le chapitre 10 nous raconte les descendances de Cham et de Japhet. Et puis, un peu plus loin, dans le chapitre 11, à partir du verset 10, on a la descendance de Sem, toute la terre. Je reviens dans mon chapitre 11, verset 2. Partis de l'Est, donc ces descendants de Noé, partis de l'Est, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Faisons donc des briques, et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors, « Bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains. Le Seigneur dit, « Ainsi, ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Descendons donc, et là, brouillons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. » Le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babylone, brouillage, on appela cette ville du nom de Babylone, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre. Et c'est de là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Ce récit nous décrit un des avatars très significatifs de l'histoire des descendants de Noé. Je rappelle qu'ils avaient mandat de se multiplier et de remplir la terre. Or, dans ce récit, parti de l'Est, probablement la région où l'arche s'était échouée, ils trouvent une vallée et s'y installent, c'est le pays de Shinéar, c'est-à-dire la plaine alluviale de la Babylonie. Et là, ils forment un grand projet. Bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. Comme on l'a vu, ce n'est pas du tout le mandat qu'ils avaient reçu de Dieu. Au lieu de se disperser, on bâtit une ville, pour au contraire rester bien groupé. On ne tient pas compte du mandat divin. On connaît ce mandat, on sait bien quelle est la volonté de Dieu, mais on désobéit sciemment, préférant élaborer ses projets et en s'appuyant sur le groupe, sur la société, plutôt que sur Dieu. Et on voit que ces hommes ont le projet de bâtir une tour, non seulement une ville, mais une tour, dont le sommet atteigne le ciel. Alors, est-ce que c'est une simple hyperbole pour dire que c'était une tour très haute ? Peut-être. Mais on sait par l'archéologie que les archéologues ont trouvé dans la littérature mésopotamienne de cette époque que de telles tours existaient, des constructions qu'on appelait des ziggourats, avec en leur sommet souvent un temple pour des activités cultuelles et aussi une sorte d'observatoire où les savants de l'époque se livraient à des observations astronomiques dont on déduisait des théories astrologiques certainement occultes. Et même certains documents archéologiques parlent de la recherche de la proximité avec la demeure des dieux et d'activités au sommet de ces tours qui reproduisaient celles des dieux, notamment sous forme de prostitution sacrée. Les dieux babyloniens en particulier, comme les dieux grecs, avaient des histoires conjugales très très compliquées. Est-ce que la tour de Babel répondait à un tel projet ? La Bible ne le dit pas. Mais on relève quand même une désobéissance claire au mandat divin. Ils se rassemblent dans une ville au lieu de se disperser et ils construisent cette tour dont le sommet est censé atteindre les cieux. Et tout cela pour se faire un nom. On voit que dans ce projet, ils se parlent les uns aux autres pour le concevoir et le mettre à exécution. Mais il n'y a aucun dialogue avec Dieu. Faisons-nous des briques, cuisons-les au feu, bâtissons-nous donc une ville, faisons-nous un nom, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. Et le verset 5, vous l'avez remarqué, semble être le pivot du récit. Verset 5, le Seigneur descendit. pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains. Pour marquer qu'eux, ils montent avec leur tour, alors que le Seigneur, lui, descend, mais qu'il n'y a pas de rencontre. Et puis le Seigneur se parle à lui-même, vous voyez au verset 6, « Ainsi, ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Descendons donc et brouillons leur langue. » Donc une sorte de délibération divine au sein de la Trinité. Et le résultat de cette délibération, c'est qu'il faut intervenir. Sinon, rien n'arrêtera les hommes dans leurs projets. Ça rappelle, je trouve tout à fait, la déclaration divine de Genèse 3, 22. Rappelez-vous, après la chute, en Genèse chapitre 3, au verset 22, le Seigneur dit « L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon et mauvais, que maintenant il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à toujours. » Et le Seigneur les renvoya du jardin d'Éden. La symétrie entre ces deux interventions divines est assez frappante. Alors Dieu dit donc au verset 7, « Descendons donc, vous voyez le pluriel divin, hein, et brouillons leur langue afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. » On a une structure asymétrique remarquable, je trouve, entre le projet divin et la réaction, entre le projet humain, pardon, et la réaction de Dieu. Les hommes, faisons des briques, cuisons-les au feu, bâtissons une ville et une tour, faisons-nous un nom. Un projet très volontariste, foisonnant d'activité. Et Dieu, descendons donc, brouillons là leur langage. Une décision souveraine et concise. Et le résultat, au verset 8, eh bien on l'a lu, hein, le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. Finalement, ils sont contraints de se plier au mandat de Dieu. Mais on peut dire à contre-cœur. Et au verset 9, c'est pourquoi on appelait cette ville inachevée du nom de Babylone, qui signifie brouillage, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre. Et c'est de là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Alors dans cette histoire, on voit des hommes élaborer un projet et le mettre à exécution, sans tenir compte du mandat que le Seigneur leur avait donné, et ce, quelques générations seulement, après le terrible jugement du déluge. On voit donc que le cœur humain n'avait pas changé et qu'il était resté rebelle, malheureusement, à son Créateur. Et ce qui frappe dans ce récit, c'est l'absence de communication entre les humains et Dieu. Ils font leur projet sans tenir compte de Dieu. Dieu intervient pour les contraindre à se disperser, mais semble-t-il sans dialogue. Celui-ci est totalement absent, contrairement d'ailleurs à ce qui s'était passé après la chute d'Adam et Ève, il y avait eu un dialogue entre Dieu et sa créature. Et Dieu démontre sa souveraineté en mettant fin au projet humain d'une façon très simple, mais il n'est même pas sûr qu'ils aient été conscients de l'intervention divine. Tels sont nos projets quand nous agissons contre la volonté clairement exprimée du Seigneur. Ils ne sont pas nécessairement voués à l'échec, mais nous contraignons le Seigneur à intervenir afin que son projet à lui se réalise malgré tout. Mais que de temps et d'énergie perdus. On peut dire que le Seigneur, même dans le cas de Babel, est intervenu par grâce. Il aurait pu laisser les hommes aller toujours plus loin dans leur désir de toute puissance, de se faire un nom et de s'éloigner toujours plus de la communion avec leur Créateur. Et maintenant qu'on a vu le projet des hommes, je vous propose de regarder le projet du Seigneur. Et on prend Genèse 12, donc juste après, au verset 1. Genèse 12, au verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Là, c'est Dieu qui prend l'initiative d'un projet extraordinaire en faveur d'un homme, Abraham. Il l'appelle, il lui promet une descendance nombreuse, il lui promet de le bénir et, vous l'avez noté, de rendre son nom grand. Les hommes de Babel voulaient se faire un nom par la construction de cette ville et de sa tour. Là, c'est Dieu qui promet à Abraham de rendre son nom grand. La grandeur d'Abraham ne sera pas le fruit de ses efforts, elle lui vient de Dieu. Et l'un des aspects de cette grandeur est qu'il sera, par sa personne même, une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et on voit qu'Abraham part, comme le Seigneur le lui avait dit. Abraham croit à la parole du Seigneur, il ne discute pas, il part, confiant dans la promesse. Quel contraste avec l'attitude des hommes de Babel. Abraham, comme on le sait, sera l'ancêtre du peuple juif, d'où est issu, selon la chair, le Messie. Le Fils éternel de Dieu prendra chair d'une femme juive, Marie, et apportera le pardon des péchés et la promesse de la vie éternelle. Un projet inouï de bénédiction de toutes les familles de la terre, dispersées sur toute la terre, sur tous les continents. Une bénédiction qui nous atteint, nous aussi, habitants de la lointaine Europe. Et je vous propose de regarder encore un aspect de cette affaire, cette tour qui voulait atteindre le ciel, en Genèse 28. Genèse 28 au verset 10. Jacob partit de Beersabée pour Haran. Il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touché au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Et le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Et puis suivent des promesses que le Seigneur fait à Jacob, qui rappellent exactement celles qu'il avait faites à Abraham. Jacob, donc, c'était le petit-fils d'Abraham. Il est obligé de fuir de chez lui en raison de la colère de son frère aîné Ésaü, qu'il a bassement trompé avec la complicité de sa mère Rebecca pour s'emparer de la bénédiction et de l'héritage paternel. Et c'est sur le chemin de sa fuite que Dieu le rencontre, alors qu'il est seul, et ceci au cours d'un rêve. Et ce rêve est tout de même bien étrange. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touché au ciel. Les messagers ou anges de Dieu y montaient et y descendaient. Et le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Et il lui dit qu'il est en plus, Yahvé, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Et les promesses faites antérieurement à ses ancêtres sont renouvelées par le Seigneur lui-même en sa faveur. Non seulement la promesse d'une terre, mais qu'il serait, comme Abraham, une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Voyez, les hommes de Babel ont voulu bâtir une tour dont le sommet atteigne les cieux, et le Seigneur a dû faire échouer leur entreprise. Ici, le Seigneur montre à Jacob un escalier qui monte, et là c'est sûr, jusqu'à la demeure de Dieu. Des anges ou messagers établissant le contact entre le ciel et la terre. Mais cette fois, c'est le projet de Dieu. Non seulement le renouvellement des bénédictions terrestres promises, mais une relation établie par Dieu lui-même entre le ciel et les hommes. Et c'est en Jésus-Christ, issu selon la chair de ce peuple, que cette relation va trouver son plein accomplissement. Et les promesses vont se réaliser. Le pardon des péchés, la faveur de Dieu, l'héritage céleste, une patrie éternelle, une ville éternelle, pas Babylone, la Nouvelle Jérusalem, et par-dessus tout la présence éternelle de Dieu. Alors quelle conclusion pouvons-nous tirer de ces récits de la Genèse, de l'aube de l'humanité ? D'abord que le projet de Dieu s'accomplit malgré les errements humains. Et c'est un projet de bénédiction, malgré le péché humain et le jugement qu'exige la justice divine. Cette bénédiction est la claire volonté de Dieu, mais elle est conditionnée par la foi de ceux qui en sont les bénéficiaires. Abraham, Jacob et tous les hommes de foi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite dans son extraordinaire chapitre 11. Alors, soyons des hommes de foi et recevons ces bénédictions. Nous avons noté la vanité de vouloir se faire par nous-mêmes un nom, de vouloir satisfaire notre orgueil, laisser une trace dans l'histoire des hommes. C'est l'un des motifs les plus puissants qui a gouverné la vie de beaucoup de grands hommes. Je veux qu'on se souvienne de moi. En fait, un désir d'éternité que Dieu seul peut satisfaire, peut réellement satisfaire. Et quant à nous, chrétiens, prenons le temps de réfléchir à nos projets. D'abord, est-ce bien la volonté de Dieu ? N'a-t-il pas clairement indiqué déjà sa volonté ? Et si ce n'est pas le cas, la lui avons-nous demandé avant de nous lancer dans un projet ? Et cela concerne tous les secteurs de notre vie, le choix d'un métier, le choix d'un conjoint, le projet d'une église. Rappelons-nous que quand c'est le projet de Dieu, la bénédiction est promise. Deux clés, me semble-t-il, pour que nos projets réussissent, l'obéissance et la recherche de la volonté de Dieu. Et il me semble qu'on doit mettre l'obéissance en premier, car elle est probablement elle-même la clé de la connaissance de la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.